France Inter.
France Inter. Le téléphone sonne. Élodie Forêt.
Des milliers de voix s'élèvent à l'unisson dans un stade ou une salle communie dès les premières notes. Cette scène de joie pure, vous l'avez peut-être vécue si vous avez vu un groupe mythique se reformer sur scène. Dernier en date à avoir soulevé les foules et les cœurs, Oasis bien sûr, les frères Gallagher ont depuis juillet remis le couvert pour une tournée débutée à Cardiff qui va se poursuivre à travers le monde. Oasis qui ne sont pas les premiers, pas les derniers à retrouver ainsi la scène, mais le phénomène semble s'intensifier. Alors ce soir, on va s'interroger sur ces reformations ou ces retours après des années de silence. Qu'est-ce que ça dit de l'industrie de la musique et surtout, qu'est-ce que ça dit de nous, le public qui aimons tant retrouver nos idoles. Ça vaut pour le rock, mais pas seulement. Quand on voit le succès, par exemple, de la tournée Star 80 en France, succès aussi des tributes bandes qui jouent le répertoire des groupes disparu. On se demandera également pourquoi certaines reformations sont des réussites et d'autres des échecs, des vrais ratés. Est-ce que pour vous, certaines idoles sont finalement bien là où elles sont, incarnation d'un passé dont vous ne vous sentez pas si nostalgique après tout? La nostalgie d'ailleurs, est-ce que ça fait du bien de s'y complaire? Est-on plus nostalgique qu'avant? Dites-moi ce que vous en pensez, si vous rêvez de voir ABBA sur scène, si vous écoutez en boucle le dernier album de Pulp ou au contraire si vous n'en pouvez plus de ces groupes légendaires et que vous voulez du 9. 01 45 24 7000, vos questions, vos témoignages au téléphone ou message WhatsApp, nous sommes ensemble jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you not to do.
On ne pouvait pas s'en empêcher, mettre un petit extrait d'Oasis. Vous avez bien sûr reconnu Wonderwall pour commencer cette émission. Autour de la table, je suis très contente d'accueillir ce soir Lélo Jimmy Battista. Vous êtes journaliste au service culture chez Libération. Bonsoir.
C'est ça, bonsoir.
Nous avons en ligne Kem Lalo. Vous êtes programmateur des Eurockéennes de Belfort. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis avec nous aussi ce soir, Emmanuel Fantin, vous êtes maîtresse de conférences au CELSA Sorbonne Université et chercheuse au GRIPIC, groupe de recherche interdisciplinaire sur les processus d'information et de communication, et vous avez travaillé spécifiquement sur la nostalgie. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Je commence par vous Lélo Jimmy Battista, ce soir, puisque vous avez, vous, assisté à l'un de ces concerts de reformation d'Oasis. C'était au stade de Wembley à Londres. Je vais lire un tout petit extrait que j'aime beaucoup du papier que vous avez publié après ce concert. Vous dites « Moins un concert de rock qu'une thérapie nationale collective. Les gens hurlent, pleurent sans retenue, se prennent dans les bras. C'est le plus grand hôpital psychiatrique à ciel ouvert du monde. » À ce moment-là, on se dit deux choses. Qu'on a une chance inouïe d'assister à un truc pareil et qu'on ne le revivra probablement jamais une autre fois. Est-ce que vous vous attendiez à vivre ça ?
Pas vraiment, non, parce que moi j'y suis un peu allé presque à reculons, parce que j'ai connu Oasis à leur début, je les avais vus en concert une fois, et c'est un groupe que j'aime bien, mais je ne suis pas particulièrement fan plus que ça, parce qu'Oasis c'est quand même un groupe dont les gens sont très 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 fans généralement, et donc j'y allais vraiment pour voir l'expérience, voir un peu ce qui se passait, voir un peu le public aussi, j'avais envie de parler avec le public, voir... Parce que bon, c'est quand même une affaire assez importante. Et puis, en fait, c'est une telle liesse, un tel truc en face de vous que vous pouvez pas le refuser, en fait. Vous êtes obligé de partir avec. C'est comme un raz-de-marée. Vous ne pouvez pas résister. Vous pouvez pas... Bon, alors, ça, le fait que je connaisse les chansons, etc., aide beaucoup, quoi. Mais c'est vrai que ça aurait été très... Même quelqu'un qui n'y connaîtrait rien, ça aurait été très difficile de rester assis dans son coin.
Comment on explique ça, cette communion? C'est justement parce que c'est un groupe qui se reforme et dont on n'était pas sûr finalement de revoir les prestations sur scène.
Alors c'est vrai qu'il y avait une grosse attente et puis qu'il y avait vraiment une inconnue dans le sens où plein de gens pensaient qu'il ne reviendrait jamais, ça c'est vrai, mais c'est aussi parce que c'est un groupe qui va vraiment au-delà de la musique, c'est vraiment, il y a quelque chose de très ancré culturellement, c'est un groupe qui a beaucoup joué sur son appartenance à la classe ouvrière par exemple, c'est un groupe qui a beaucoup aussi joué dans la figure emblématique de ce qu'on appelle le lad, c'est-à-dire les jeunes gars anglais qui vont au match de foot, portent un bob, marchent un peu de manière un peu simiesque, etc. C'est voilà, il y a tout un truc, il y a vraiment tout un truc culturel, et c'est vrai que sur place, vraiment en discutant avec les gens, on s'en rend vraiment compte de ça, c'est-à-dire que pour plein de gens, c'était beaucoup plus que de la musique, c'était vraiment moi j'ai par exemple discuté à un moment avec une fan japonaise et elle me disait mais moi c'est carrément le groupe qui m'a appris à m'habiller et qui m'a appris des choses sur la culture anglaise, tout ce que je sais vient de là en fait. Donc c'est extrêmement particulier, c'est très différent on va dire d'un groupe qui se reforme plus classiquement quoi.
Kem Lalo, vous êtes programmateur des Eurockéen de Belfort, vous avez-vous programmé comme ça des groupes mythiques qui se sont reformés?
Oui, bien sûr, on aurait bien aimé programmer Oasis, mais bon, je pense que pour l'instant, c'est... Enfin, reprogrammer, puisqu'on les a déjà eu deux fois,
ça arrivera
pour l'instant,
peut-être.
C'est pas à l'ordre
ça
du jour.
Ça arrivera peut-être.
Oui, ça arrivera peut-être. Oui, tout à fait. Ben, on en a alors de diverses, je pense par exemple à Les Insus, qui était plus ou moins une reformation de Téléphone, en fait, mais pas avec l'autorisation d'utiliser le nom, qu'on a eu en 2015, puisqu'ils n'avaient pas eu l'autorisation d'utiliser le nom, parce que Corinne, la bassiste, Corinne Mariano, n'était pas d'accord pour cette reformation, donc ils ont trouvé une parade, les insupportables, portables, téléphone, enfin bon, ben voilà, ils ont trouvé cette parade-là pour revenir, et donc c'était un succès énorme en 2015, cette tournée. L'année dernière, en 2024, on a programmé Suxy, aussi pour son grand retour, la seule date française. Ouais. Voilà, là c'est toujours un petit peu plus risqué, parce que on n'a pas eu la chance de l'avoir sur scène avant, donc là on prend un vrai pari, on se dit, allez, on y va, on verra bien ce que ça donne. Suxy, c'est quand même une artiste importante, qui a marqué toute la période punk et post-punk qu'après, et voir la période gothique. Donc on s'est dit, on se lance, on y va, et finalement le concert était ok. Donc non, on fait quand même très très attention à ce qu'on fait, mais des fois ça vaut le coup de se lancer, de dire on verra bien.
Emmanuel Fantin, vous qui travaillez sur la nostalgie, quel regard vous portez sur la reformation d'un groupe comme Oasis? Est-ce que raconte finalement Lelo Jimmy Battista que c'est plus de la musique, c'est plus que de la musique?
Oui, tout à fait. Alors, moi, le regard que j'emporte, c'est un regard assez lointain, on va dire plutôt. Disons que je le reprends dans l'économie globale de la nostalgie dans les médias, qui vient. C'est un peu la même chose dans le cinéma avec les remakes, les reboots, etc., dont on parle beaucoup, où à chaque fois, on va, d'une certaine manière, métaphoriser le temps et la mémoire en marchandise. Une marchandise culturelle, certes, mais une marchandise tout de même, qui va être très intéressante. Alors, intéressante, du coup, pour les industries, parce que qui dit marchandise dit une certaine économie derrière, et puis intéressante aussi pour les consommateurs qui vont trouver une manière de prolonger le plaisir esthétique, donc plaisir esthétique de la fiction ou plaisir acoustique de la musique, et qui va reconvoquer des souvenirs. Mais bon,
nous sommes développés un petit peu. Ouais, nous sommes en ligne avec Gilles.
Oui, allô.
Bonsoir Gilles.
Oui, bonsoir.
Alors, dites-nous, vous êtes un fan de vinyle?
Alors voilà, moi je suis un fan collectionneur de vinyle depuis des années, et donc j'ai de très vieux groupes, évidemment, vous en doutez. Mais aujourd'hui, ça m'enquiquine de revoir ces groupes qui se reforment, quoi. Enfin, ACDC qui se remonte sur scène à presque 80 ans, enfin, t'allais les voir à 20 ans, ou il y a 30 ans, ou il y a 40 ans. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça me fatigue. En revanche, comme je suis fan de vinyle, eh ben, je vais faire des recherches, et je trouve plein de petits groupes aujourd'hui, en fait, qui font pas de bruit, hein, voilà, et qui font vraiment du bon son.
Mais alors, vous dites, on les a vus il y a longtemps, et puis basta, mais pour les gens qui n'ont pas eu la chance d'aller voir?
Bah oui, mais je veux dire, aller voir les Sex Pistols sur scène, vous iriez aujourd'hui? Enfin, même si vous ne les avez pas vus, ça n'a pas de sens. Enfin, pour moi, ça n'a pas un sens dans la société dans laquelle on vit. Enfin, ça correspond à un mode de vie. Enfin, j'ai vu plein de concerts, hein. J'ai vu la Mano Negra à l'époque de la Mano Negra. Aujourd'hui, je vais aller voir, comment il s'appelle, Manu Chao, mais je ne vais pas voir la même chose. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors, nous sommes en ligne aussi ce soir, je voudrais l'écouter avec Rémi. Bonsoir, vous nous appelez de l'Hérault.
Oui, bonsoir, c'est moi. C'est
et Rémi, et vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec Gilles, je crois.
Alors, je partage pas le même point de vue que Gilles, parce que bon, moi, je suis un grand fan d'AC/DC depuis plus de 35 ans. Malheureusement, j'avais 2 ans en 1980, donc j'ai pas pu voir le premier chanteur. Et je continue en fait à sillonner l'Europe pour voir ce groupe, même si Angus et Brian Johnson ont plus de 70 ans. Mais j'ai besoin de voir ce groupe en fait parce que ils ont créé un son, une puissance. Et beaucoup s'identifient à eux. Et j'ai pas envie ensuite, dans quelques années, de devoir supporter des cover bands, des tributes. Et je pense que malgré leur vieillesse, qu'ils soient âgés, c'est important de continuer. Pour moi, ils ont encore de la jeunesse et c'est important qu'ils continuent. Voilà.
Lélo Jimmy Battista, c'est intéressant ces témoignages. Peut-être pour revenir sur celui de Gilles qui dit que ça n'a plus vraiment de sens à un moment, parce que c'est vrai que là on parle plutôt de rock pour commencer cette émission. Il y a dans le rock quelque chose de très vivant, de très sur le moment, de révolte aussi. Est-ce que ça a encore du sens 10, 15, 20, 30 ans plus tard d'avoir ces groupes sur scène?
Je suis assez d'accord avec ce que dit Gilles en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a certains groupes pour lesquels ça ne colle pas du tout. Et, bon, y en a, on va dire que de toute façon, tous ces retours se jouent vraiment sur deux axes. Ça va être l'axe artistique et l'axe émotionnel. Et vraiment, la plupart des groupes qui reviennent ne jouent que sur l'émotionnel. Il y en a très peu, finalement, qui proposent quelque chose de réellement nouveau, qui prolonge, on va dire, vraiment l'aventure.
Ils jouent sur quoi? Sur la dramaturgie? Alors là, Oasis, c'est un peu le cas...
Oasis, c'est vraiment un cas presque à part, parce qu'il y a ce truc culturel. Et puis en plus, ça colle avec leur intention, finalement, ces concerts gigantesques, le fait de faire 7 fois Wembley. Parce qu'en fait, ils ont, dès leur début, ils sont arrivés en disant on va être les meilleurs, on va écraser tout le monde. Ils avaient un truc très arrogant. Et le fait de le faire ça aujourd'hui, quelque part, c'est un aboutissement logique. Mais c'est vrai que, par exemple, là, Gilles parlait des Sex Pistols, voire revenir les Sex Pistols aujourd'hui, en plus avec un autre chanteur, il y a quelque chose de complètement incohérent. Enfin, en gros, c'est juste un orchestre de bal, quoi. Enfin, ils vont jouer les morceaux qu'on aime bien, mais dans un contexte qui n'a plus rien à voir. Là, c'est là où c'est vraiment la différence, parce que voilà, comme je disais, Oasis, leur intention, le fait qu'ils reviennent aujourd'hui dans des concerts gigantesques, ça correspond à leur intention. Alors que les Sex Pistols, c'était vraiment le punk en 77, c'était vraiment presque un braquage, c'était ça qui était le romantisme du truc, c'était ça, c'était qu'en gros, un album, on arrête tout, on disparaît, quoi. Et là, le fait de revenir encore, parce qu'en fait, c'est pas la première fois, ils étaient déjà revenus déjà dans le milieu des années 90, et puis ça avait fait, enfin, beaucoup de gens avaient trouvé ça déjà assez discutable. Et c'est vrai que je peux comprendre, enfin, cette façon de voir les choses, je suis assez raccord avec ce que dit Gilles, effectivement.
Kem Lalo, on fait attention quand on est programmateur, quand on a des propositions comme ça de groupes qui veulent se reformer, on fait attention à ce que ça ait du sens, enfin un sens artistique et puis aussi un sens dans ce que ça veut dire.
Oui, tout à fait. Ben, évidemment, bien sûr, il faut que ça, c'est de la tenue quand même, que ce ne soit pas juste une reformation qu'on sent venir gros comme une maison pour le pognon, quoi. C'est souvent le cas, hein, d'ailleurs. Moi, je pense que Oasis, de toute manière, c'en est une pour le pognon également. Même s'il y a, y a quand même, en fait, on sait que les frères Gallagher se prennent la tête tout le temps. Donc là, une reformation, on ne sait pas comment, alors qu'ils sont insultés quand même copieusement les années précédentes. Je pense que c'est motivé quand même beaucoup par l'argent. Mais je voudrais juste dire encore un dernier truc sur Oasis, par rapport à ce qu'a dit Gilles. Effectivement, je comprends et je partage vraiment son point de vue, mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas pu voir Oasis, qui étaient trop jeunes, effectivement, comme le disait l'auditeur précédent sur AC/DC. Et je crois, Lélo, tu étais au concert, il y avait énormément de jeunes au concert d'Oasis, pas que des quarantenaires et des cinquantenaires.
C'est ça qui était très étonnant, justement. C'est vraiment, il y a le gros du public, c'était plutôt entre 20 et 35, on va dire, quoi. Et il y avait même des très jeunes, des 12, 13, 14 ans.
Et ça, c'est intéressant, il y a aussi une transmission générationnelle. Il y a Jacqueline qui nous écrit par WhatsApp, elle me dit « Ces réformations me permettent de vivre un concert d'une star ou d'un groupe avec ma fille, c'est génial. Ça s'est produit par exemple le 6 juillet dernier à Bercy avec Diana Ross, moment magnifique qui m'a été offert par ma famille. » Il y a de la nostalgie, mais il y a aussi offrir à l'autre, Emmanuel Fantin, à nos enfants, ce qui nous a fait du bien à un moment.
Alors, c'est vrai que la question transgénérationnelle ou intergénérationnelle, elle est très importante dans la nostalgie, puisqu'en fait, la nostalgie, elle repose en fait sur des consensus mémoriel. Mmh. Et on le voit bien à travers ces groupes qui se reforment et qui comme Oasis, par exemple, qui vont venir évoquer, par exemple, moi, ma mémoire individuelle, donc ma propre nostalgie en tant qu'auditrice dans mon enfance, et en même temps qui sont comme des points de contact sociaux qui vont activer, du coup, votre mémoire à vous et qui vont finalement créer du lien, tout simplement. Mais si je peux me permettre, peut-être revenir sur le témoignage de Gilles, parce qu'il a dit quelque chose qui me semble vraiment capital. En fait, il a commencé son témoignage en parlant de vinyle. Ce monsieur a dit, moi je suis un grand collectionneur de vinyle. Et pour moi, cette question dont on parle pas toujours, mais la question de la matérialité. C'est-à-dire, les médias sont des contenus. La musique, c'est un contenu esthétique, acoustique, etc., culturel, mais sont aussi des processus techniques qui, eux aussi, véhiculent une forme de mémoire, une forme d'écoute. Et quand on va réactiver certains groupes, y compris, même si les technologies ont changé, en fait, on vient toujours aussi porter une incidence mémorielle sur ces contrastes entre le monde pré-numérique, en fait, et le monde...
Le son. Le son produit par le vinyle, finalement, va aussi nous ramener dans une époque antérieure.
Voilà. Et puis aussi le contenu du média en tant que tel, c'est-à-dire Oasis, c'est aussi l'objet, le CD qui a disparu. Enfin voilà, c'est toute cette mémoire des médias qu'on charrie à chaque fois. C'est pas juste la musique en fait.
Allez, nous sommes en ligne avec Alice. Bonsoir Alice.
Moi je voulais vous apporter un témoignage. Bon, avant tout, déjà vous remercier pour les émissions qui m'accompagnent sur la route tous les soirs. C'est super agréable. Merci à vous. Mais voilà, j'avais un témoignage concernant un autre groupe. Vous parlez beaucoup d'Oasis, mais moi, je suis un petit peu plus jeune. J'ai 26 ans. Et quand j'étais plus jeune, j'écoutais énormément Linkin Park, dont le chanteur est malheureusement décédé en 2017, Chester Bennington. Moi, c'est un groupe pour lequel je pensais avoir toute la vie le regret de ne pas pouvoir les voir en concert, étant trop jeune à l'époque où Chester est décédé. Et à l'annonce de la reformation du groupe, là, l'année dernière, avec Emily Armstrong, j'avoue que j'ai été, comme beaucoup de gens au début, un peu appréhensive. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'ai eu un peu une petite appréhension en me disant « Ah, ce sera pas pareil, il n'y aura pas la même âme ». Mais bon. Et au final, ils ont annoncé un concert en juillet. J'ai un peu foncé sur les places quand même avec mon copain qui est dans la même situation parce qu'on s'est dit « Faut essayer, c'est un groupe qu'on n'aura peut-être jamais l'occasion de voir et il faut donner sa chance ». Et voilà. Et on est allé sur place, et en effet, c'était pas pareil que Chester, mais c'était différent, et c'était tout aussi incroyable. On a eu une communion incroyable avec tous les membres du public, tout le monde connaissait les paroles, c'était un renouveau, mais extraordinaire. Donc, ok, ce sera jamais pareil qu'avec Chester, mais ça a été un moment vraiment incroyable, voilà. Voilà.
Merci beaucoup Alice. C'est vrai que les Jimmy Batista, parfois les groupes, quand ils se reforment, ne sont pas exactement les mêmes que 15 ans, 20 ans auparavant.
Ils ne sont jamais les mêmes, puisqu'en fait, il y a tout qui change. C'est-à-dire qu'elle certes, la musique, on va dire, reste un peu plus ou moins, on peut reproduire quasiment la même musique, mais même, c'est surtout une histoire de contexte. En fait. C'est-à-dire qu'un groupe, ce n'est pas juste sa musique, c'est aussi le contexte dans lequel il apparaît. Donc, on parlait des Sex Pistols tout à l'heure, effectivement, le fait qu'ils aient existé très peu de temps, finalement, ça c'est une grosse composante du groupe. Et là, c'est vrai que oui. Avec Linkin Park, bon, je connais moins, mais le truc, c'est que comme justement il y a une chanteuse à la place du chanteur, il y a tout un tas de changements. C'est vrai que ça peut aussi participer à un type de prolongement qui est, c'est-à-dire que c'est la même chose mais différent. Donc c'est encore autre chose. Voilà, ça propose quelque chose un peu différent. C'est pas forcément une réplique de ce qui se faisait à l'époque.
Dans ce que j'entends aussi, il y a ce regret peut-être de n'avoir jamais vu un groupe, d'avoir raté quelque chose. Ça me fait un peu penser à ce qu'on appelle le FOMO, la peur d'avoir manqué quelque chose. Emmanuel Fantin, est-ce qu'il y a ça aussi dans tout ce public qui va voir ces groupes qui font des retours ?
Oui, il y a la question des... Alors, je dirais pas du FOMO, mais des groupes mythiques. Et moi, ça me fait plutôt penser à ce type de nostalgie qu'on appelle... Enfin, qu'un chercheur, un sociologue anglais appelle armchair nostalgia, c'est-à-dire le fauteuil de la nostalgie. En fait, comme si on se mettait dans la nostalgie d'une époque que l'on n'a pas vécue. Ça me fait penser à tous ces groupes en fait qui reviennent sur le devant de la scène, mais qui en fait s'adressent aussi beaucoup à des personnes qui étaient parfois dans un berceau au moment où ils ont sorti leurs premiers albums.
Alors il y a Bertrand qui nous écrit sur WhatsApp. Il nous dit: les anciens groupes se reforment car aujourd'hui la qualité musicale laisse à désirer. Les années 60 et 70, c'était les meilleurs. Ça vous fait rire, les Jimmy Batista?
Toutes les générations disent un peu ça, quoi. Le truc, c'est que je pense que ce qui se reforme aussi en ce moment, c'est que c'est aussi une vraie raison économique, parce que moi, quand j'ai commencé à écouter de la musique dans les années 80 puis 90, il y avait très peu de reformations. Enfin, les groupes ne revenaient pas aussi massivement parce que tout simplement, ils continuaient. Enfin, les groupes qui avaient été connus dans les années 60, même 50, ils vendaient des disques.
Donc, mais alors, raison économique pour qui ? Pour ces groupes ? Pour les pour promoteurs eux, oui, oui, oui. Pour les festivals ?
Bah, il y a un peu tout, mais c'est vrai que pour les groupes, déjà, en premier lieu, effectivement, ils ont besoin de s'ils veulent continuer à vivre, ou en tout cas, s'ils tiennent encore à ce succès, à perdurer ce succès, ils sont obligés de revenir et faire des concerts, puisqu'en fait, c'est le seul moyen pour engranger de l'argent, puisque en fait, on vend plus de disques. Donc, il y a vraiment un souci là-dessus. Même si, bon, comme je disais, voilà, dans les années 80-90, c'était moins évident. Il n'y avait pas de groupe qui se reformait, en tout cas pas autant. Mais il y avait déjà... Aujourd'hui, quand je regarde de manière rétrospective avec les connaissances que je peux avoir ou quoi, je vois finalement, il y avait déjà une obsession du passé. Dans les années 90, les années 90 étaient obsédées par les années 70. Les années 80 étaient obsédées par les années 50 en termes d'esthétique et tout. Donc, il y a toujours... C'est toujours là, en fait.
Et économiquement, Kem Lalo, je voudrais juste poursuivre un tout petit peu là-dessus. Donc, pour un festival, quand un groupe comme ça... on vous propose un groupe qui se reforme comme ça, c'est une aubaine parce que ça attire beaucoup de monde ou au contraire c'est des cachets très chers et c'est compliqué à gérer ?
Eh ben, c'est un peu des deux, c'est une aubaine mais effectivement c'est des cachets très chers quoi. C'est ça le problème parce que tout le monde va vouloir se lancer dessus. Sur Oasis, pour l'instant ils ont annoncé que des arénas, des stades, il n'y a pas de festivals qui sont annoncés, mais dès qu'ils vont être annoncés en festival, s'ils le font, s'ils ne se prennent pas la tête avant, etc., ça va être des cachets faramineux et bon là c'est vraiment l'offre et la demande entre guillemets et on va vraiment être en concurrence et souvent quand il y a des reformations comme ça c'est le cas. Je vois Suxy par exemple, un cas beaucoup moindre, qui est venue chez nous l'année dernière, elle avait décidé de faire très peu de dates, quasiment une date par pays, donc après il y a eu un choix quand même à faire, mais après elle était sensible également à l'argent, mais c'était aussi le contexte, des fois c'est le contexte avec qui on va jouer, enfin etc. Donc voilà, heureusement il y a encore certains artistes qui ne voient pas que l'argent, mais souvent c'est quand même le cas.
Oui, parce que c'est un choix à faire, parce que pour les festivals on ne peut pas non plus augmenter le prix des billets indéfiniment.
Oui, bah complètement. Non, l'idée, c'est vraiment pas d'augmenter. En plus, nous, aux Eurokinés, on a une jauge quand même qui nous limite. On a 35 000 personnes, on peut pas étendre. Donc, par rapport à certains autres festivals mastodons qu'on peut avoir en Europe, qui font 100 000 personnes par jour sur notre week-end, on est des petits poussets, entre guillemets.
Jean-François est en ligne avec nous. Bonsoir, Jean-François.
Bonsoir.
Alors, vous aussi, nostalgique des années 60-70, je crois.
Oui, tout à fait, j'avais 20 ans. Et puis donc la nostalgie, bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand j'écoute beaucoup FIP, dès qu'il y a un morceau de Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et autres, bah il y a un petit coup de nostalgie qui revient, quoi. Moi j'ai fait des festivals dans ma jeunesse, et donc on est un peu imprégné avec ces musiques. Pink Floyd par exemple, qui m'a suivi toute ma vie et qui m'a aussi entraîné sur un chemin de vestimentaire, comme il était dit tout à l'heure, ou un chemin de rêve, ou un chemin... Donc oui, la nostalgie, c'est quelque chose qui est ancré dans nous, et puis qui fait ressortir des moments de notre vie passée, et c'est affectif, quoi, en plus. Il n'y a pas de mystère. Hein.
Est-ce que vous êtes retourné voir un groupe que vous aimiez en concert? Parce que Led Zepp, par exemple, il tournait encore assez récemment.
Non.
Et vous n'avez pas envie?
Si, j'aurais bien envie. C'est mon porte-monnaie qui refuse. C'est trop cher.
Alors, Jean-François, vous nous parlez beaucoup. La nostalgie, c'est pas un phénomène nouveau, la nostalgie, mais le Fantin, j'ai l'impression que toute génération confondue est un peu nostalgique, mais est-ce que ça s'intensifie ou est-ce que ça prend un aspect différent, la nostalgie, en ce moment ?
Ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, la nostalgie, c'est une émotion anthropologique majeure qui existe depuis extrêmement longtemps et dont les médias, comme l'a rappelé, se sont emparés depuis très longtemps. Mais ce qu'il peut y avoir de nouveau, c'est effectivement peut-être la pression industrielle, en fait, en quelque sorte, et la pression médiatique autour de la nostalgie, l'accélération du temps ressenti qui conduit aussi par effet de levier ou de manière de contrebalancer des effets ou des volontés de retourner en arrière. Et puis, autre nouveauté, des imaginaires du futur, parce qu'en fait le temps c'est une articulation, le présent c'est une articulation entre le présent et le futur, et le fait que le futur soit soumis à des imaginaires de plus en plus compliqués, voire apocalyptiques, etc., conduit inévitablement aussi à pressuriser tous les imaginaires fantasmatiques, puisque la nostalgie est un fantasme, hein, qui se retournent vers le passé. Donc oui, il y a quand même vraiment une accélération, une pressurisation autour de la nostalgie en ce moment.
Oui, ce qu'on a pu lire d'ailleurs par rapport à Oasis, pour les Anglais, qu'il y avait cette idée aussi de revenir dans des années plus heureuses peut-être, pré-Brexit, on a pu lire cette analyse.
Oui, il y a un peu ça, c'est vrai que les quelques personnes à qui j'en ai parlé pendant le concert m'ont un peu évoqué ça, effectivement. Quoi. C'est-à-dire vraiment, c'est-à-dire que c'est le milieu des années 90, pour les gens qui ont connu le groupe à l'époque, c'était assez, c'était un peu, enfin, pas dire paradisiaque, mais il y avait un truc, quoi, il se passait quelque chose. Quoi. C'est comme nous, quand, si on évoque en France les gens qui ont connu la Coupe du Monde de 98, c'est un peu la même, c'est du même ordre, quoi. On avait l'impression que tout était, enfin, Charles Pasqua qui voulait régulariser tous les sans-papiers, voilà, c'était dingue, quoi. Mais il y a un truc comme ça, il y a aussi, on idéalise sans doute beaucoup, hein, c'est ce qui reste, c'est-à-dire que la trace qui reste, c'est un peu celle-là, c'est quelque chose de très positif.
France Inter. Le téléphone sonne.
On se fait encore plaisir ce soir, on repasse à notre morceau d'Oasis, Don't Look Back in Anger. Et nous sommes en ligne avec Bertrand à Paris. Bonsoir Bertrand.
Oui, bonsoir, merci de votre accueil. J'ai observé lorsque des groupes se reformaient par nostalgie pour faire des revivals, quand c'était des hommes qui composaient le groupe à l'origine, les mêmes réapparaissaient sur scène, vieillis mais toujours actifs. En revanche, quand il y avait dans le groupe une femme, ou plusieurs, la femme ne réapparaît pas, elle est remplacée par une femme plus jeune. Pourquoi donc ? Pourquoi ce traitement différencié ? Pourquoi les hommes musiciens donc, ont-ils droit au revival et les femmes n'ont pas le droit ?
Vous avez un exemple précis en tête ? Parce que là, tout de suite, moi, je n'ai pas forcément.
Justement, il y avait Téléphone, je crois, il y avait quelque chose comme ça. Bon, mais il y en a d'autres aussi qui ne me reviennent pas en tête. Je ne suis pas un spécialiste du rock. Hein,
alors, Téléphone, c'est vrai qu'ils étaient fâchés.
J'ai observé ça. Mmh. Alors, la nostalgie peut être véhiculée par des hommes, mais elle ne peut pas être véhiculée par des femmes. Pourquoi donc ?
Lélo Jimmy Batista, c'est peut-être une colle.
Est-ce qu'on voit
moins réapparaître des groupes de femmes, peut-être ?
Oui, sans doute, mais après, c'est parce qu'il y en a, enfin, statistiquement, il y en a quand même beaucoup moins. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Enfin, on va dire que l'écart se réduit, mais sur les groupes des années 60, 70, 80, même 90. Moi, j'ai revu des groupes entièrement féminins rejouer. Je pense à un groupe des années 90 qui s'appelle L7. Bon, ça, il n'y avait pas vraiment de différence. Et pour le coup, effectivement, dans le groupe, il n'y a que des femmes et il y en avait une plus jeune. Mais parce qu'en fait, je pense aussi que peut-être les femmes sont peut-être plus raisonnables et qu'au lieu de vouloir continuer dans cette espèce de rêve inaccessible, elles ont choisi d'autres trajectoires, quoi, tout simplement. Moi, je sais que dans le cas dont je parle, L7, la femme en question, celle des quatre qui n'avait pas pu revenir, c'était vraiment parce qu'elle avait une autre vie et que pour elle, c'était terminé. Quoi.
Emmanuel Fantin.
Moi, j'ai une hypothèse, bien que je n'ai absolument aucun exemple, donc je ne sais pas à quel groupe se réfère ce monsieur, mais si tant est que ça soit le cas, ça me paraît assez logique, considérant que socialement, l'homme vieillissant, comme les cheveux gris, etc., évidemment, même du point de vue de l'esthétique, de la beauté, est une figure valorisée, là où la dame vieillissante n'est non seulement pas valorisée, mais dévalorisée. Donc, si c'est le cas, c'est simplement du sexisme et les producteurs, j'imagine, pensent, et certainement à juste titre, et c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas nostalgique des années 80 ni même d'avant, puisque au moins maintenant on en parle, les femmes vieilles ne font pas vendre.
Il y a un contre-exemple quand même, c'est les Spice Girls, je voudrais quand même le citer. Kem Lalo, est-ce qu'il y a un petit bémol quand même à ces reformations de groupe, enfin peut-être même gros bémol, c'est que ça prend beaucoup de place par rapport à d'autres groupes émergents. Est-ce que ça peut empêcher aussi l'éclosion de nouveaux talents ?
Oui, tout à fait. Il faut vraiment être vigilant ça. Je sais que dans votre introduction, vous avez parlé des tribute bands. C'est vrai que c'est quelque chose qui devient assez dingue. Il y a des festivals de tribute bands. Maintenant, on a l'impression d'avoir à l'affiche Led Zeppelin, Jimi Hendrix et je ne sais qui, quoi. Et c'est vrai que c'est le fait d'annoncer des fois une reformation, comme nous, ça a été le cas quand on a annoncé les Insus, par exemple, ça a vampirisé tout le reste de l'affiche, quoi. Donc, nous, les les Eurockéennes, on est quand même un festival qui a besoin de têtes d'affiche, que ce soit des groupes qui se reforment ou alors des groupes qui sont têtes d'affiche actuelles, mais on a aussi besoin, et on défend ça ardemment, les nouveaux groupes, la nouveauté, les nouveaux styles de musique. C'est vraiment à prendre avec parcimonie, je trouve, quoi.
Lélo, Jimmy Battista, vous êtes d'accord avec ça? Faut pas que d'accord. Ça vampirise toute la place.
Nous aussi, pareil, dans les médias, enfin, moi, en tout cas, quelque part, si je fais ce boulot, c'est pour ça aussi, c'est pour trouver de nouvelles choses et parler de gens qui arrivent et puis les faire découvrir, etc. Et c'est vrai que les retours peuvent très vite prendre une place énorme, vu qu'il y en a beaucoup et que c'est quelque part plus facile. Parce qu'enfin, voilà, moi, par exemple, sur Oasis, j'ai le label qui me paye une place pour aller voir le concert, etc. Alors que pour aller voir un petit groupe sur lequel je mise beaucoup, qui serait, je sais pas, en train de jouer au fin fond du Minnesota, aucun label me paiera un billet d'avion ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce truc-là. C'est beaucoup plus difficile en fait de trouver, de la même manière que les groupes ont du mal à trouver leur place sur les affiches où forcément ils vont avoir du mal à concurrencer des gros noms qui sont là depuis des années. Nous c'est pareil. Voilà, on aimerait bien pouvoir pousser plus des jeunes, mais il faut faire aussi attention à ce que justement l'offre justement des artistes plus connus ne viennent pas étouffer tout ça.
Je voudrais parler des tribute bands parce que c'est assez intéressant comme phénomène. Alors, ça existe depuis assez longtemps. En Angleterre, il y avait beaucoup ces groupes d'hommage aux Beatles, notamment.
Ouais, pour moi, c'était longtemps un phénomène anglais parce que c'est vrai que moi, je vais en Angleterre depuis assez longtemps, depuis les années 90 assez régulièrement. Effectivement, vous voyez souvent des affiches pour des tribute bands des Beatles, des Rolling Stones, des faux. Il y avait à l'époque d'Oasis, où Oasis avait commencé, ils avaient déjà un tribute band qui s'appelle No Oasis. Enfin, il y avait plein de, il y a toujours eu plein de cas. C'est presque une tradition en Angleterre. Mais quand ça a commencé à arriver en France, j'étais beaucoup plus étonné, quoi, comme de voir des tributes bands à Jean-Jacques Goldman,
à Nirvana.
À Nirvana, voilà. Enfin, c'est vraiment. Après, moi, c'est un truc que je comprends pas du tout.
C'est-à-dire musicalement, artistiquement,
oui, voilà, c'est-à-dire après je comprends peut-être le côté festif, j'en sais rien, mais je trouve ça assez repoussant, voilà.
Même l'idée peut-être que ça perpétue un patrimoine, ça vous séduit pas?
Oui, non, mais autant regarder un documentaire ou voilà.
Emmanuel Fantin.
Alors moi j'ai une hypothèse encore une fois sur la raison pour laquelle ça fonctionne, même si à titre personnel je trouve ça étonnant aussi, c'est qu'il faut rappeler que la nostalgie n'est pas, doit être distinguée de la mémoire. Donc dès lors qu'on est dans la nostalgie, tout à l'heure je disais on est dans le fantasme d'un absolu, etc. Et la mémoire, qu'est-ce que c'est? C'est un processus dynamique entre ce qu'on conserve et ce qu'on oublie. Et il y a un grand philosophe qui s'appelle Vladimir Jankélévitch qui a travaillé sur la nostalgie et qui nous dit la nostalgie est d'autant plus passionnelle qu'elle est objectivement moins fondée. Et là je crois qu'on est exactement là-dedans, c'est-à-dire que je suppose que ces personnes sont tellement fans des Beatles par exemple ou autres que finalement, bon, peu importe qui est sur scène, on est dans la recréation de ce mythe complètement irrationnel, en fait, mémoriel, affectif, etc. Ça explique peut-être le succès de ces tribute bands.
Et il y a peut-être un intérêt économique, c'est que ça rapporte aussi, de l'argent et des droits d'auteur aux groupes originaux, c'est ça?
Je crois, ouais. Enfin, ça dépend de je ne sais pas quels sont les deals à chaque fois, c'est très différent. Mais oui, sans doute, ouais.
Alors, qu'est-ce qui fait une reformation de groupe ratée ou réussie, selon vous? Je commence par vous, Lélo, Jimmy Battista.
Réussie, je dirais, en prenant le cas de groupe, on va dire, un peu plus classique, sur son sens, côté très culturel, très ancrage culturel d'Oasis. Mais ça serait de revenir avec quelque chose d'assez nouveau et puis de revenir en sans vouloir reproduire ce qu'ils ont fait avant, mais en jouant vraiment son âge, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai été assez touché de voir des groupes, par exemple, qui sont revenus et qui avaient 55 ou 60 ans et qui s'habillaient comme des gens de 55 ou 60 ans et qui parlaient de problèmes de gens de 50 ans, qui assumaient leur truc et qui en refaisaient quelque chose de nouveau autour de ça, en fait. C'est-à-dire soit avec des paroles où ils allaient parler de soucis qui étaient vraiment plus de leur âge, c'est-à-dire, je sais pas, leurs parents qui disparaissent, les histoires de divorce, les problèmes avec les enfants. Et c'est assez étonnant de voir ça. C'est encore très très rare, mais ça arrive un peu. Ou alors qu'elle allait refaire vraiment toute une scénographie différente. Mais il y avait un groupe comme ça que j'avais revu, un groupe qui a eu pas mal de succès dans les années 90 qui s'appelait Faith No More, qui était revenu alors qu'ils ont, je sais plus quel âge aujourd'hui, dans la soixantaine. Et ils avaient vraiment fait une espèce de scénographie à mi-chemin entre un EHPAD et une secte raélienne. Enfin, c'était très très dingue, tout en blanc. Et ça rendait quelque chose de vraiment complètement autre chose que ce qui revenait pas avec le délire des années 90 recraché en photocopie, mais vraiment avec un truc nouveau.
Oui, voilà. Parce qu'il y a les reformations qui se basent comme Oasis là sur leurs anciens morceaux, et puis il y a ceux qui recréent des albums album. C'est tout le cas. Il y avait eu Blur, il y avait eu Pulp. C'est plus intéressant selon vous ?
Ouais, complètement. Blur, le cas de Blur, c'est un bon exemple justement. Effectivement, ils avaient fait un album qui était beaucoup plus avec leurs préoccupations d'aujourd'hui. Quoi, il y avait quelque chose dedans qui était assez mélancolique, assez nostalgique. Enfin, on sentait qu'il y avait quelque chose de... Voilà, ils parlaient de leur point de vue de types qui ont 55 ans et de tout ce qu'ils ont pu vécu, de tout leur vécu derrière eux. Et puis, il y avait quelque chose d'assez assez touchant là-dedans, quoi.
Kem Lalo, vous êtes d'accord avec ça ? Vous êtes peut-être plus touché par des groupes qui vont essayer de recréer quelque chose artistiquement parlant avec un nouvel album, par exemple ?
Oui, complètement. Je suis tout à fait d'accord avec Lelo, mais en fait, c'est vrai que la plupart des gens, quand il y a une reformation qui arrive, ils vont espérer que cette reformation va rejouer les grands tubes qu'ils ont écoutés les années précédentes. Ça, c'est sûr, quoi. Donc, c'est difficile d'arriver à faire la part des choses, mais c'est vrai que moi, je serais plus attentif, effectivement, s'il n'y a pas on va dire la nostalgie, et qu'il y a aussi quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être effectivement des nouveaux morceaux, ça peut être une nouvelle scène, ça peut être effectivement, comme disait Lelo, c'est des fois stupide de les voir se réhabiller comme il y a 30 ans. Effectivement, on sera beaucoup plus sensible à ça. Et des fois, quand il y a certaines reformations aussi qui veulent absolument refaire la reformation d'origine avec le line-up d'origine, c'est-à-dire avec le premier batteur, etc., etc. Alors, souvent, là, on court à la catastrophe, hein, des fois. Hein. Ce n'est pas catastrophique, mais je pense à la première reformation de Kiss, quand ils ont décidé de se remaquiller en 98. Alors, c'était effectivement toute la formation d'origine. Alors, au début, c'était pas mal, mais le batteur, il s'est vite essoufflé autour des tournées, et ils ont été obligés de le remplacer en le remaquillant avec quelqu'un d'autre, mais en gardant son maquillage. Enfin, ça peut aller sur des choses quand même assez curieuses, quoi.
Qu'est-ce que vous avez aimé, vous, par exemple, comme reformation ?
Alors beaucoup, hein, par exemple la reformation de Black Sabbath, quand Black Sabbath a décidé de se reformer en 2013 et de refaire une tournée avec un nouvel album, là il y avait justement un nouvel album avec Ozzy au chant, moi j'avais trouvé ça assez fabuleux, manquait peut-être le batteur d'origine, mais malgré tout là il y avait un vrai album qui tenait la route et tout, donc moi c'était une reformation que j'avais beaucoup aimée. Après il y en a une que j'espère, comme beaucoup de monde, c'est la reformation des Smiths, mais je ne sais pas si elle arrivera un jour.
Mais il y a beaucoup quand même de reformations.
Ils sont très fâchés aussi.
Ouais. Il y avait Rage Against the Machine quand ils étaient revenus aussi pour le concert qu'ils avaient fait à Rock en Seine. C'était plutôt réussi, même s'ils se sont pris la tête très rapidement derrière. Mais c'était quand même plutôt réussi, quoi.
Allez, on rejoint Philippe à Paris. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir. Ben, moi, je voulais juste vous parler du festival Rétro Cétro qui a lieu tous les ans entre Compiègne et Amiens et qui est destiné à, disons, qui fait revenir d'anciennes gloires du rock et certaines reformations. Et cette année, c'était des anciennes gloires du punk, de la mouvance punk.
Et avec qui, par exemple ?
J'y ai passé 3 jours extraordinaires. Je me suis régalé. Donc, il y avait les Sex Pistols, les Stiff Little Fingers, Manu Chao, Iggy Pop, les Toy Dolls, plein de groupes. Alors, Sex Pistols, moi, j'ai vraiment pas accroché à cette reformation. Mais Iggy Pop, toujours au top. Manu Chao, génial. Les Stranglers, même s'il y a un seul membre d'origine, moi, j'ai pris une claque. Voilà, donc... et le festival est tous les ans sur un thème un peu différent. Et là, moi, c'était toute la musique que j'aime et je me suis vraiment, vraiment régalé. Quelques nouveaux groupes aussi.
Bon, voilà. Iggy Pop, il est toujours au top, c'est vrai.
Ah ben oui, le boss, incroyable.
Et Emmanuel Fantin, merci beaucoup hein, Philippe pour ce témoignage. On a parlé beaucoup de musique, mais finalement, il y a beaucoup de nostalgie sur d'autres choses. Les années 2000, on en a beaucoup parlé avec cette nostalgie très prégnante pour les années 2000, même des gens qui sont plus jeunes que moi, c'est-à-dire des gens de 20 ans qui sont vraiment retournés vers les années 2000. Comment ça s'explique ça ?
Ça s'explique car, comme je disais tout à l'heure, il n'est pas nécessaire d'avoir vécu une période pour en être nostalgique dans la mesure où la nostalgie, contrairement à ce dont on a l'impression quand on l'éprouve soi-même, c'est un mythe. Tout à l'heure, on parlait des années 90 en disant c'était génial, 98, etc. Bah, je ne sais pas, c'était génial peut-être dans votre trajectoire biographique personnelle, mais si on s'imagine, par exemple, du point de vue, je ne sais pas si je suis historien et que je regarde la manière dont on enseignait au hasard l'histoire de la colonisation à l'époque et que je regarde les bouquins d'histoire de l'époque, je me dis, c'était une époque catastrophique. Voilà, donc c'est juste pour dire, c'est vraiment il faut vraiment avoir ces mises en perspective pour comprendre que que, bon gré, mal gré, la nostalgie est un fantasme. Et donc, finalement, le fantasme, il peut porter, il n'a pas besoin de porter sur soi et sur ses propres souvenirs. Et du coup, je peux prendre un exemple personnel, puisqu'on parle de concert, on en parlait tout à l'heure. Moi, quand je suis allée voir les Cure à l'âge de 21 ans, en 2007, j'allais voir un groupe. Dans la salle, il n'y avait que des personnes qui avaient l'âge d'être mes parents, qui me toisaient. Voilà, je me sentais d'ailleurs assez illégitime, parce qu'eux avaient vécu cette époque. Et moi, j'étais en train de découvrir ce monde.
Vous n'étiez pas au même moment, finalement, par rapport au groupe.
Exactement. Néanmoins, je les écoute aujourd'hui avec nostalgie.
Kaïm Lalo, je crois que vous vouliez réagir à ce que disait Philippe.
Oui, non, c'était simplement rapidement. En fait, ce festival, je vois très bien Rétro Cétro, en fait. Mais là, il n'y avait pas beaucoup de reformation, finalement. C'était quand même, la plupart du temps, c'était des groupes qui existaient déjà. À part les Sex Pistols, c'est des groupes qui ont continué à tourner. Il y avait, je crois, une reformation des Jam également, qui s'appelle From the Jam, où il y a, un membre originel, où je ne suis même pas sûr si ce n'est pas un tribute band, en fait. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse. Voilà.
Allez, je voudrais finir sur peut-être une question à chacun. Qui rêvez-vous de voir sur scène? À vous peut-être, Kaïm Lalo, pour commencer. Ça serait quoi votre rêve absolu de reformation?
Ah ben moi, il y en a une, elle a eu lieu très très rapidement, c'est Led Zeppelin. Mais parce qu'ils ont fait un seul concert, donc ça a frustré énormément de monde. Alors effectivement, on a pu le voir, puisqu'il y a eu un DVD qui est sorti, mais nous on a eu Page and Plant aux Eurockéennes, mais c'était quand même pas Led Zeppelin, même s'ils ont joué que des morceaux de Led Zeppelin. Mais d'avoir Led Zeppelin, oui, ce serait classe.
Emmanuel Fantin, une envie, un rêve, quel groupe, quel chanteur, chanteuse?
Bah là, on a parlé des Smiths tout à l'heure, et je me suis dit que j'aimerais bien voir les Smiths sur scène. Ouais.
Je crois que j'allais répondre la même chose aussi. Parce que ça aurait été le seul truc que j'aurais aimé voir. Enfin, pareil pour le phénomène. Quoi,
mais pourquoi? Ouais, c'est ça, parce que par rapport à un autre groupe, qu'est-ce qu'ils ont, les Smiths, qu'on aurait envie de voir?
C'est-à-dire que je pense que si je me mets dans la même situation que j'ai vu Oasis là, dans le stade de Wembley, revoir les Smiths dans cette situation-là, ça serait assez intéressant. Puis en plus, j'ai envie de voir, j'aimerais, je serais assez curieux de voir comment Morrissey et Johnny Marr pourraient se rabibocher, surtout à la fois amicalement et politiquement. Et il y a tout un tas de trucs intéressants. Et puis en plus, moi j'avais vu pas mal de fois Morrissey en solo au début des années 90, et bon, à l'époque c'était quelque chose à voir, quoi. Et je me dis qu'avec les Smiths, ça serait quelque chose. Je pense pas que j'y miserais grand chose dessus aujourd'hui, mais je serais très curieux.
Bon, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas à nos invités, Lelo, Jimmy Battista. Vous êtes journaliste et critique chez Libération, Emmanuel Fantin, maîtresse de conférence au CELSA Sorbonne Université et chercheuse au GRIPIC, et Kaïm Lalo, vous êtes programmateur des Eurockéennes de Belfort. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça, vos souvenirs, vos rêves. Demain au téléphone sonne, alors que le Conseil constitutionnel va rendre sa décision sur la loi Duplomb, on parlera de militantisme. Est-ce de plus en plus difficile, fatigant, peut-être mal perçu de s'engager? 19h59 sur France Inter. Tout de suite, c'est la question des petits bateaux.
Bonjour, je m'appelle Marius et j'ai 9 ans. Et je voudrais savoir dans quel pays le premier homme a-t-il vécu. Merci, au revoir.
Merci Marius, et tu auras ta réponse juste après le flash.